de Zeus.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe?
Je ne peux pas vous le dire.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Vous me recevez à vous parler.
Qui êtes-vous?
Je n'en sais rien. Et je compte bien le découvrir.
Fini la rigolade.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil? Qu'est-ce que vous faites?
Votre émission hebdomadaire sur le cinéma.
Vous avez une autorisation?
Bien entendu, j'en ai une.
Cinérama.
Ce nom, je l'encaisse pas.
Ben ça, c'est ton problème!
Chronique, blind test, interview.
Eh ben, c'est génial!
Amusez-vous bien.
C'est gentil.
Tout le plaisir est pour moi.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, une émission consacrée évidemment au cinéma. Une demi-heure pour écouter aujourd'hui alors plusieurs réalisateurs. C'est peut-être la première fois qu'on va entendre bien des réalisateurs pour trois films. Nous allons aller à Cannes, à Tokyo et puis un peu dans les salles de concert. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Alors toi, peut-être Manu, tu vas parler d'un film avec Romain Duris.
Avec Romain Duris, un film français qui se passe au Japon, une part manquante et là il n'y a pas d'interview. Du réalisateur.
Et oui, ce sera la seule. Oui. Et toi, Guillaume, tu as vu un film avec un père et un fils qui sont aux commandes.
C'est ça, deux réalisateurs pour un film sur un duo qui s'appelle Prodigieuse.
Et nous écouterons donc, alors, seulement le fils pour la raison que j'expliquerai tout à l'heure. Quant à Sophia, qui n'est pas avec nous pour ce lancement, mais qui a pu enregistrer sa chronique, elle nous parlera de Diamant Brut, un film qui était en compétition à Cannes. Et nous écouterons la réalisatrice, qui était en conférence de presse lors du festival. Et puis, nous allons aussi entendre Michel Hazanavicius, qui, lui, clôturait la compétition de ce dernier festival de Cannes avec un film d'animation troublant. Nous allons commencer cette émission avec La plus précieuse des marchandises.
Par ici, s'il vous plaît.
Cinérama.
Ah, mais avec joie.
Mais son cœur en un cœur.
Alors, en plus d'être un réalisateur qui sait varier les genres de la comédie au drame en passant par le gore potache, Michel Hazanavicius a des talents de dessinateur. Et c'est ce qui est visible hein, avec son dernier long métrage qui est un film d'animation dont il a fait une grande partie des dessins. La plus précieuse des marchandises a fait la fermeture du Festival de Cannes. Alors, c'était plutôt une riche idée, hein, tant le film, quoique dur, sait aussi être doux et apaisant, sérieux et précis dans sa cruauté comme dans son humanité. Il s'agit de l'adaptation éponyme du roman de Jean-Claude de Grimbert. L'histoire nous emmène en Pologne, au milieu de la forêt, alors pas très loin des camps de la mort, durant la Seconde Guerre mondiale. Ça commence bien comme un conte. Hein. Il était une fois dans un grand bois, une pauvre bûcheronne et un pauvre bûcheron. Alors cette phrase, d'ailleurs, c'est assez troublant, est dite par Jean-Louis Trintignant. Et c'était ça. Alors, sa dernière apparition au cinéma, mais en tout cas, c'est la dernière fois qu'on l'entendait dans un film. Et la bûcheronne retrouve donc un bébé jeté d'un wagon. Elle décide de sauver ce petit, alors d'abord contre l'avis de son rude mari, le bûcheron. Alors lui, il estime qu'il appartient, alors ce petit, à la race des sans-cœurs, mais le gaillard va changer d'avis, sentant le cœur chez ce petit être, sentant la vie qui a besoin d'être protégée d'un monde dont il est une victime. Ce couple va se montrer déterminé à faire grandir cet enfant envers et contre tout, balançant les préjugés, faisant fi des animosités, des jalousies, s'extirpant des affres de la guerre qui sévit en dehors de cette forêt.
Il était une fois, dans un grand bois, un pauvre bûcheron et une pauvre bûcheronne. Le froid, la faim, la misère leur rendaient la vie bien difficile. Et puis, un jour...
La petite marchandise est un terme utilisé par les nazis pour désigner les juifs. Hazanavicius n'a pas peur de comparer son film au premier Disney. Alors si ce n'est qu'il emprunte aussi à la peinture du 19e siècle pour représenter cette forêt polonaise, ce froid, ces tons gris, cette rudesse, ces saisons. La forêt est une sorte d'écrin dans lequel évoluent des personnages qui n'ont rien demandé à personne, mais que la guerre rattrape.
Qu'est-ce que c'est que ça? Ne sais-tu pas à quelle espèce il appartient? C'est un sans-cœur!
Alors, passage, on entend la musique d'Alexandre Desplat. La plus précieuse des marchandises est un film tendu qui résonne longtemps après le visionnage. Un film qui, de par son sujet, Les Camps de la Mort, longtemps hors champ, imposait à Zanevicius d'user du dessin pour déjouer la réalité, s'écarter du réalisme, du trucage, trouver un moyen de raconter l'indicible. Alors, c'est ce que le réalisateur a clairement exprimé lors de la conférence de presse qu'il a donnée au Festival de Cannes. Et je vous propose de l'écouter.
J'ai dessiné les personnages au départ. J'ai pas fait tous les dessins de ce film. J'étais extrêmement accompagné. J'ai caractérisé les personnages. Les dessins qui sont totalement à moi dans le film, c'est les dessins au fusain qui sont arrêtés. Ça, c'est ça, ok, ça, c'est moi. Le reste, j'ai dessiné des personnages. J'ai fait, les figurants, les visages dans les trains, etc. Mais j'avais une équipe. Techniquement, c'est très, très, très différent de faire un film d'animation par rapport à un film live. Mais moi, je me suis pas posé du tout les questions comme ça. Je suis pas passé par là. Moi, j'ai fait un film. Point. Faire un film, ça reste faire un film. Ça reste agencer des éléments visuels ou sonores que vous balancez à un spectateur pour lui créer des émotions. Ça reste ça, basiquement. Les camps et les convois. C'est déjà mis en scène, en fait. C'est-à-dire que ça a été mis en scène par les nazis. Quand on prend des gens, qu'on les met à 90 dans un wagon à bestiaux, qu'on les fait tourner une semaine avant de les amener dans un camp et qu'on les déshumanise totalement, ça se fait pas par hasard, c'est une mise en scène. Donc quand vous voulez représenter ça, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous épousez cette mise en scène? Est-ce que vous acceptez la mise en scène des nazis ou est-ce que vous ne l'acceptez pas? Est-ce que vous montrez ce qui est tellement violent, tellement horrible que vous sortez du cadre du spectacle, parce qu'on fait aussi du spectacle, c'est-à-dire vous mettez le spectateur dans une situation impossible de témoin de ça, vous sortez de la salle quoi, en tant que... Donc c'est impossible de montrer ce qui s'est réellement passé. Mais si vous ne montrez pas ce qui s'est réellement passé, il y a un fort risque de tomber dans le mensonge, c'est-à-dire de raconter une histoire de quelque chose qui ne s'est pas passé comme ça, qui a été beaucoup plus violent. Alors, entre l'immontrable et le mensonge, voire même peut-être une forme de révisionnisme, la piste de réflexion, c'est la suggestion. C'est-à-dire comment vous pouvez suggérer au spectateur, comment vous pouvez lui ouvrir une porte pour qu'il s'engouffre dans son imaginaire avec sa morale, avec son éthique et qui touche comme ça à pour ça l'indicible. Et le dessin pour ça c'est formidable c'est pas la solution à tout, mais déjà vous avez des problèmes en moins, c'est-à-dire que vous n'avez pas à demander à des gens d'être tout de suite dans le mensonge, c'est-à-dire de prétendre qu'ils sont des déportés, de faire semblant qu'ils sont dans le désespoir, de faire semblant qu'ils vont mourir. Non, le dessin, il fait pas du tout semblant, le dessin, c'est une proposition, en fait. Et donc, cette volonté de ne pas essayer de reproduire la réalité, qui est juste une proposition qui se passe au niveau de l'imaginaire, il me semblait que c'était le meilleur moyen, peut-être pas résoudre, mais approcher dignement ces questions de représentation. Et aussi, ça colle parfaitement à l'imaginaire du début du film, qui est l'univers du conte, où on est, qui est plus disneyen. C'est-à-dire que tout d'un coup, dans l'animation, on est parfaitement à notre place. On est d'autant plus à notre place qu'on est accompagné par une musique fabuleuse.
C'est donc Jean-Louis Trintignant qui raconte cette histoire. La voix du bûcheron, c'est celle de Grégory Gadebois. Et Grégory Gadebois était aussi à la conférence de presse, donc au Festival de Cannes. Il n'a pas dit grand-chose, mais il a dit ceci.
Bon, je ne peux pas tellement parler. Moi, c'était pas... J'entends parler depuis tout à l'heure en année de travail, tout ça. Moi, c'était une demi-journée. C'est un peu indécent d'être là, mais...
Et c'est un des mieux payés de...
Voilà, bonne ambiance. Donc, ce jour-là, en revanche, Michel Hazanavicius n'a rien reçu pour ce film d'animation. Guillaume.
C'est intéressant ce qu'il dit parce que on se rappelle forcément du débat, entre autres soutenu par Claude Lanzmann qui avait hurlé sur dans le réalisateur de Shoah, qui avait hurlé sur Spielberg et sa tentative de montrer les douches, l'horreur dont parle Hazanavicius, mais aussi le fait que, mine de rien, cette volonté de montrer sans montrer, c'est très récent comme tendance et ça c'est questionné par le cinéma. Il y a la zone d'intérêt, mais il y a aussi, là on a parlé très récemment de L'ombre du commandant qui est la version documentaire. Donc c'est très intéressant de voir que ces réalisateurs, à l'heure de la multiplication des écrans, parlent du fait de la chose est réelle sans le montrer, parce qu'on ne peut pas le montrer. En même temps, est-ce que les gens ont envie de voir ça? C'est très intéressant.
Donc La plus précieuse des marchandises de Michel Hazanavicius, film d'animation très dur quand même, est en salle depuis le 20 novembre. L'histoire vraie de jumelles pianistes virtuoses atteintes d'une maladie rare filmée par un père et son fils, c'est assez rare au cinéma. Nous parlons de Prodigieuse.
This is Cinerama.
Je m'excuse, mais c'est aussi simple que ça.
Nous avons parlé récemment de l'importance de la musique au cinéma à la sortie de l'excellent documentaire Music by John Williams de Laurent Bouzereau. Aujourd'hui, on bascule de l'autre côté de l'œilleton et même de l'oreille, car la fiction reprend ses droits avec Prodigieuse, et ce malgré le fait que ce film est inspiré d'une histoire vraie. Alors Claire et Jeanne, jeunes jumelles pianistes virtuoses, sont admises dans une prestigieuse université de musique dirigée par l'intraitable professeur Klaus Lennard. Elles portent ainsi l'ambition de leur père qui a tout sacrifié pour faire d'elles les meilleures. Mais une maladie orpheline fragilise peu à peu leurs mains et compromet brusquement leur ascension. Alors refusant de renoncer à leurs rêves, elles vont devoir se battre et se réinventer pour devenir plus que jamais prodigieuses à plus d'un titre.
Vous entrez dans une des meilleures écoles de piano du monde, il faut rien négliger. Montrez-leur qui sont les Valois.
Back home, your family, they think you're prodigious. Here, you're nothing.
Merci. Vous travaillez avec votre sœur?
Oui.
Rien ne me sert d'avoir une pâle copie quand on peut avoir l'original.
Sujet étonnant, histoire vraie, peu banale et véritable défi pour un duo, lui aussi pas commun, qui s'empare du parcours des jumelles Audrey et Diane Plenet, pianistes victimes d'une maladie orpheline affectant leurs mains. Alors certains cinéphiles auront déjà pu s'intéresser à elle via le documentaire de Niels Tavernier, Le mystère des jumeaux en 2009, mais Frédéric et Valentin Potier, père et fils à la ville et collaborateurs de toujours ayant œuvré dans des publicités et des courts-métrages, décident pour leur premier long-métrage de fiction de justement utiliser cette relecture fictive pour mieux tisser une dramaturgie propre. Audrey et Diane deviennent donc Claire et Jeanne, avec la complicité des jumelles d'origine, et vont symboliser l'abnégation qu'il faut pour pouvoir jouer à haut niveau, mais aussi toutes les embûches qu'on peut tendre à des jeunes femmes dans un milieu ultra compétitif, parfois machiste et dans tous les cas éreintant. Le plaisir du film tient avant tout à son écriture bien maîtrisée, nous offrant un parcours riche en émotions et surtout approfondi en ce qui concerne les relations et évolution des personnages. Claire et Jeanne vont être mises en compétition bien malgré elles, et y compris dans la salle de cinéma. L'idée étant de les rassembler via leurs différences naissantes et de montrer que ce qui fait aussi le sel d'un grand artiste n'est pas qu'une pratique drastique, mais également l'âme véritable qu'il y met dans son art. Notre regard évolue en même temps qu'elles grandissent, à la fois en expérience mais aussi en maturité. Pour ce faire, il fallait un casting réussi, ce qui est l'autre bon point du long métrage.
I will select the soloist.
Soliste, ça veut dire qu'au final, il n'y en aura qu'une qui jouera?
Encore! Encore! Encore!
Camille Raza et Mélanie Robert ont la difficile tâche de nous conduire émotionnellement pendant 100 minutes, mais aussi de nous accrocher, alors qu'elles ne sont pas pianistes à la base, et encore moins jumelles. Alors si la pratique du piano n'est pas importante grâce aux artifices du cinéma, le casting voulu par Frédéric et Valentin Potier devient vite une évidence qui permet d'approfondir les thématiques du film, un peu comme ce qu'avait fait Louise Buñuel dans son fabuleux Cet obscur objet du désir. Alors de pouvoir voir une différence, nous pouvons du coup ressentir ce qu'elles subissent, car nous ne pouvons pas nous empêcher dans la première partie du film de les comparer, voire de les opposer, pour ensuite les embrasser toutes les deux dans le reste du métrage qui nous amène avec beaucoup de péripéties et d'énergie vers sa conclusion qui veut que tout est possible si on en a l'audace et le cœur. Alors des cœurs, il y en a deux et même quatre avec ceux des réalisateurs qui réussissent leur passage au format long. Alors si on aurait aimé un peu plus d'emphase cinématographique dans les scènes musicales, le défi était déjà assez important pour ne pas pinailler devant l'agréable résultat qui, à l'image du récent Louise Violet, incarne un cinéma populaire français qui mérite de rencontrer son succès en salle.
T'as raison, c'est vraiment dans la veine populaire, avec, on peut le noter, Franck Dubosc aussi, qui joue le père intraitable qui veut conduire ses filles au succès. Ces filles qui, au bout d'un moment, elles sont atteintes de cette maladie, elles se disent mais on ne sait faire que ça, du piano, donc qu'est-ce qu'on va faire? Enfin, c'est vraiment le nœud tragique du film.
Et le film, en plus, aurait pu tomber dans le côté comique, parce que le père, lui aussi, est obsédé par la réussite, parce que lui-même a une carrière brisée, et il y a des éléments comiques qui le mettent en scène. Alors, je ne dévoile pas, parce que vous irez voir le film.
Non, mais c'est faible.
Mais du coup, voilà, c'était l'intelligence de l'écriture, je pense, c'est qu'ils n'ont pas outrepassé le Dubosc qu'on connaît très comique à un Dubosc plus sérieux pour les besoins de l'histoire.
Et puis, en termes de mise en scène, il y a quelques petits élans, notamment des comparaisons, enfin, qui sont, ils mettent la caméra dans le piano, il y a les lignes de train, enfin voilà, tout ça nous donne des éléments sur ce que vivent les personnages. C'est très très intéressant, oui. Même cinématographiquement. Alors, on va justement écouter, eh bien, les réalisateurs. Alors normalement, ils sont deux, le père et le fils. C'est rare au cinéma. Alors, il se trouve que le père avait une extinction de voix, donc il n'y a que le fils qui nous a parlé. Nous écoutons Valentin Potier.
En fait, on a écrit le film comme ça. Nous ont donné 1000 pages de leur vie pendant une année. Et après, on s'est libéré, on s'est dit, on va faire le film et on prend le pari. Elles étaient d'accord, on va vous le montrer à l'arrivée sans que vous lisiez le scénario. Donc, c'était aussi une idée parce que c'est très difficile pour les personnes de voir leur vie portée à l'écran. Par exemple, de temps en temps, elle m'appelait, elle me disait, mais cette scène où je suis dans la piscine, elle y est alors ? Elle y est ? Et elle y est pas. Et il y a 1000 scènes qui y sont pas, parce que sinon on fait jamais le film. Déjà on aurait fait un film de 25 heures, parce qu'elles ont tellement de choses à raconter sur leur vie, tellement d'anecdotes, mais ce qui compte c'est d'avoir le fond. Donc fallait qu'elles nous fassent confiance pour à des moments résumer, ou écrire une séquence qui n'est pas dans leur histoire, mais qui raconte quand même leur histoire.
Rien ne me sert d'avoir une pâle copie quand on peut avoir l'original.
Très clairement on voulait qu'il ait ce côté séduisant, parce qu'on voulait aussi vivre avec l'arrivée à l'école des jumelles, ce côté émerveillement. On voit que l'université est très belle, elle découvre un monde. Mais aussi, c'est un peu un film initiatique où elle découvre aussi des attirances. Et il a un côté magnétique, charismatique, qui fait qu'il va pouvoir devenir aussi, se servir de son côté séducteur pour arriver à ses fins et les pousser encore plus loin dans le piano. Il a cette emprise. Et pour nous, c'était très important.
Vous me trouvez dur ? Croyez-moi, ce n'est rien en comparaison de ceux qui vous attendent dehors.
C'est quoi son problème ? Elle le fait exprès ?
Claire souffre d'une déminéralisation osseuse.
Vous lui donnez combien de chances de faire carrière ?
Aucune.
Enfin, ce qui nous a motivés à faire ce film, c'était de montrer à quel point aujourd'hui la vie est difficile et on a des objectifs. Mais quand on fait une université, quand on fait une école pour des jeunes, on nous impose un peu une direction, une seule voie, comme s'il y avait qu'un seul chemin. Et ce qu'elles montrent, c'est qu'il y a des voies détournées. Donc elles arrivent finalement à leur fin, mais pas du tout par le chemin que leur propose l'école, que leur proposent les parents. Elles vont le créer, elles vont inventer un chemin. Et ça, on trouvait ça très beau, donc c'était vraiment c'est pour ça qu'on a fait le film, en fait. Donc voilà, ça nous a émus, en fait. Quand elles nous ont raconté pour la première fois leur histoire et qu'elles nous ont dit, mais en fait, on joue ensemble, on avait vraiment les poils qui se sont dressés, on s'est dit, waouh, quoi. C'est vrai que ça coule de source qu'elles doivent être ensemble et tout devait les séparer dans la vie. Déjà, elles arrivent à l'université ensemble et le professeur d'entrée leur dit, mais nous, on cherche une soliste, on n'en cherche pas deux, on ne cherche pas l'une et sa copie, et c'est tellement dur. Mais c'est ce qu'elles vivaient, on les appelait les photocopies, on les appelait les... Enfin, elles avaient un nombre de surnoms qu'on disait, mais on parle de nous comme des monstres, il y a le regard aussi des autres qui était intéressant. Elles avaient beaucoup de force et de fragilité, ça nous troublait parce qu'on trouvait ça beau, elles nous parlaient. Avec vraiment, quand on les rencontre, on leur serre la main, on fait attention, elles ont vraiment des mains très fragiles, elles ont vraiment les os, comme elles disent, très abîmées pour leur âge. Donc, et à la fois, elles ont un discours d'une puissance, et quand elles jouent, on ressent cette force aussi. Donc ça, c'était assez troublant et beau à la fois.
J'ai à vous parler.
Comment vous pouvez me faire ça ? Je suis la meilleure.
Vous étiez la meilleure.
Claire, attends, va te faire foutre ! Je prendrai pas la place de ma sœur.
Parce que vous pensez que je vais la garder, si vous dites non ?
Donc c'était Valentin Potier qui était accompagné par son père, également réalisateur, Frédéric Potier, mais qui n'a pas parlé à cause de son extinction de voix. Et nous parlions du film Prodigieuse, film que nous conseillons et qui est en salle depuis le 20 novembre. Un père recherche inlassablement sa fille dans les rues de Tokyo. Nous parlons d'une part manquante.
J'ai des choses importantes à vous dire.
This is Cinerama.
Je vous adore. Vous êtes la joie de mon cœur.
Alors ce n'est pas tous les jours qu'un film met en scène Romain Duris parlant japonais, ni qu'on entend Que je t'aime interprété en japonais par Johnny Hallyday lui-même. Voilà, non mais c'est vrai, hein. c'est déjà une raison pour voir le film, hein. Donc pour ces deux raisons un peu périphériques mais amusantes, hein. Donc je recommande de le voir, Une part manquante, le nouveau long-métrage de Guillaume Senèse après Nos batailles. Alors évidemment, comme le récit se déroule à Tokyo, on comprend la logique de ses choix. Romain Duris incarne Jay, un chauffeur de taxi qui cherche sa fille qu'il n'a pas vue depuis 9 ans, date où il s'est séparé avec sa compagne japonaise. Alors il n'a pas pu obtenir la garde et surtout il ne pouvait pas la revoir, la loi du pays étant très arbitraire sur le sujet. Alors qu'il a cessé d'espérer donc la revoir et qu'il s'apprête à rentrer en France, Lily entre dans son taxi. Sa première apparition est d'ailleurs étrange car rien n'est explicité et surtout on doute aussi de l'objectivité de Jay, peut-être aveuglé par sa quête obsessionnelle. Par ailleurs, lors d'une discussion par Skype avec son père, ce dernier lui demande de bien bien faire attention, car à plusieurs reprises, Jay a cru reconnaître sa fille. Alors on se dit que le réalisateur va peut-être emprunter, on va dire, une direction plus trouble, proche du thriller psychologique, hein, un peu à la manière d'un film génial qui était sorti il y a quelques années, qui s'appelait Keane de Lodge Kerrigan, où Damien Harry cherchait sa fille kidnappée dans un aéroport depuis une dizaine d'années. En fait, s'il y a trouble, ce n'est pas sur cet aspect.
Comment tu es passé du chef cuistot à un taxi ?
C'est ma femme qui a enlevé ma fille.
Ici, c'est le premier qui prend l'enfant qui a la garde.
La démarche, hein, tout aussi louable de Guillaume Senez est ailleurs, du côté du drame intime, du mélodrame classique sur la relation entre un père et une fille qui ne se connaissent pas. Alors le cinéaste, par ailleurs, a donné chair à la rencontre, hein, a transmis des émotions par la sensibilité d'une mise en scène assez incarnée, hein, qui capte les regards, les visages des deux protagonistes. Romain Duris trouve un beau rôle de père meurtri, pas tout à fait guéri de ses démons antérieurs, notamment son penchant pour l'alcool qui est suggéré. Alors les scènes dans le taxi où Jay observe sa fille hésitant à lui révéler la vérité atteignent une belle intensité émotionnelle. Senez tient bien son film. Le film cherche également à explorer les différences culturelles entre l'Europe et le Japon en matière de divorce et de garde parentale. Hein. Sur ce plan, c'est moins bon, hein, je dirais. Hein. Le film dénonce donc un système où la garde des enfants est attribuée sans partage, souvent aux parents le plus aisé. Cependant, cette critique, bien qu'intentionnée, manque de finesse et frôle la caricature. Alors, sans tomber dans la xénophobie, parce que c'est pas du tout le projet du film, et même le film ne l'est pas, hein, le regard moral porté sur les traditions japonaises peut sembler maladroit, surtout venant d'un cinéaste occidental. Alors, ce traitement appuyé devient d'autant plus problématique lorsqu'il sert de prétexte pour faire basculer le film dans un mélo larmoyant en rupture avec la sobriété initiale. Alors la dernière demi-heure, donc plus artificielle, affaiblit l'ensemble et même Duris, pourtant très très bon jusque-là, force son jeu, se met à pleurer et c'est plus tout à fait aussi convaincant.
Ils sont partis, mais je pouvais pas accepter, tu vois, et depuis 9 ans,
je me suis mis à chercher Lily un peu tout le temps, tu vois, le jour, la nuit, partout dans tout le pays.
Konnichiwa.
Domo.
La stabilité de l'enfant, c'est qu'il voit ses deux parents,
ouais,
c'est pas ça?
Pas ici. Papa, j'ai retrouvé Lily.
Jérôme, c'est la 10e fois que tu me l'as fait, celle-là.
Je sais. C'est Lily, putain!
Alors, passé ces maladresses d'écriture, hein, une part manquante révèle quand même un cinéaste talentueux. Hein, son sens du cadre et de la lumière capte avec justesse une atmosphère singulière dans les rues de Tokyo. Alors, évoquant parfois le récent Retour à Séoul de David Chou, dans sa manière de saisir la topographie d'une ville à travers un regard étranger.
Une part manquante est au cinéma depuis le 13 novembre. Une fille obsédée par la beauté et le besoin de devenir quelqu'un voit en la télé-réalité la possibilité d'être aimée. Nous parlons de Diamant Brut en compétition à Cannes.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Nous reviendrons aux questions plus tard.
Oui, Alexandra Ferrer, je suis directrice de casting pour la société Starshine qui produit des émissions de télé-réalité. Voilà, je vous appelle parce que la vidéo que vous nous avez envoyée nous intéresse beaucoup. Ce serait bien qu'on se rencontre. Vous me rappelez ?
Diamant Brut, présenté en sélection officielle à Cannes cette année, m'a particulièrement touchée. Ce premier film d'Agathe Riedinger rappelle La Veine d'Andrea Arnold, connu pour ses récits réalistes et sensibles comme Fish Tank, un célèbre coming of age, prix du jury à Cannes en 2009. Ici, l'héroïne Liane, incarnée par Malou Kebizi, se révèle être un véritable diamant brut hein, dans son premier rôle. Découverte lors d'un casting sauvage, Kebizi apporte à son personnage une authenticité frappante, ancrée dans le sud de la France, hein, phrase et caractéristique à l'appui, c'est un peu comme si on était dans les coulisses des Marseillais. L'émission télé, bien sûr. Car Redinger explore justement cela, hein, une existence en marge où les réseaux sociaux et la télé-réalité s'érigent comme des aspirations de carrière et des échappatoires émotionnels.
Je m'appelle Liane Pougy, j'ai 19 ans.
Pourquoi tu veux faire de la télé-réalité ?
Ça, c'est ma collègue!
Je vais devenir la Kim Kardashian française, tu vas voir.
Ça, j'aime trop, elle me chasse!
Liane, jeune femme de Fréjus, rêve de devenir la nouvelle sensation, une sorte de Kim Kardashian française, en répondant à un casting pour une émission de télé-réalité. Marquée par des blessures d'abandon et des carences affectives, elle s'accroche à cette quête de validation. Une validation façonnée par les standards de beauté et de célébrité des réseaux sociaux. Le film se saisit de cette réalité pour dénoncer, sans jamais moquer, hein, de telles aspirations et les besoins sous-jacents qui semblent sous-tendre de telles quêtes. Le film montre en effet comment Liane utilise son corps en lui imposant des transformations, hein, réelles ou projetées, maquillage, Appuyés, extensions, tenues et accessoires inconfortables et opérations esthétiques. Alors souvent douloureux, ces oripeaux ultra-contemporains s'inscrivent dans une véritable lutte. Et oui, le champ lexical martial n'est pas l'apanage de Macron. Liane aussi ne lésine pas sur une identification presque militaire. Elle se définit comme un soldat. Son combat défie avant tout la précarité dont elle est issue. Dans cette logique, son corps, sexualisé, devient une arme, le moyen qu'elle emploie pour attirer l'attention, lui permettant peut-être un jour d'être une transfuge de classe, de passer à l'autre camp et d'obtenir aussi l'affection qui lui a toujours manqué.
On vous fabrique un bagage pour que vous trouviez un vrai travail.
C'est un vrai travail la télé, il y a des contrats, je vous signale.
Je vois pas bien l'utilité de tout ça.
C'est utile puisque ça fait rêver les gens. Elle fait 15 000 euros par poste.
Sur les réseaux, elle se fait terminer H24.
Il n'y a plus de mauvais buzz aujourd'hui.
Et c'est donc bien cet univers de divertissement consumériste que critique Diamant Brut. Pour Liane, la télé-réalité et les réseaux sociaux constituent des échappatoires, mais dans cette quête de célébrité et d'affection, elle porte les stigmates du mépris de classe, auquel le spectateur pourrait de prime abord succomber, mais ce serait sans compter sur un scénario suffisamment solide et, évidemment, la prestation de Malou Kebizi, qui parvient à susciter plus de compassion que de pitié ou d'irritation pour son personnage Liane. Cagole, issue des classes populaires, le genre de femme sur lesquelles notre société ne s'attarde guère.
Mon destin, je le travaille, le reste, c'est Dieu qui donne, frère. On est collègues de galère, toi et moi.
Je me rappelle de toi.
Ça va, le sang?
T'as fait le casting, là.
On s'est déjà perturbé normalement, on dirait une Barbie.
Regarde, il y a 50 000 personnes qui m'aiment, ok?
Structurellement, le questionnement porté par la réalisatrice sur l'hyper-érotisation des femmes à des fins de divertissement se retrouve jusque dans le format du film, tourné en 4 tiers, comme les publications Instagram. Des intertitres scindent également le métrage en chapitres et affichent des commentaires anonymes issus des publications de Liane, hein, presque comme des encarts de presse, ils accompagnent son évolution. Des espoirs initiaux à la dégringolade quand les réponses de la directrice de casting tardent à venir. Cet élément renforce évidemment la critique sociale sur la place des jeunes femmes dans l'arène des médias sociaux, leur vie tout entière étant un spectacle à consommer, à commenter et à juger. Au final, Diamant Brut interroge notre obsession contemporaine pour l'apparence et la célébrité et Rédinger livre un portrait âpre et humain d'une jeune femme fragile sous son apparente force, un véritable coming of age qui, tout en critiquant les travers de notre époque, donne une voix aux héroïnes invisibles de notre société.
Nous écoutons Agathe Riedinguet qui était en conférence de presse au dernier Festival de Cannes.
C'était vraiment le défi principal du film, de rester à la hauteur du personnage, de ne pas en raconter trop, de ne pas montrer, de ne pas surligner, sachant qu'en plus c'est un personnage qui est déjà surligné de plein de manières différentes. Donc c'était un enjeu essentiel aussi pour être en empathie avec elle et faire que le spectateur soit au plus proche d'elle. Donc pour on avait tous conscience qu'on traitait d'un sujet aussi qui de l'hyperféminité, de l'hypersexualisation et qui on pouvait vite tomber dans un certain voyeurisme et faire de l'image sexy dans ce que le mot sexy implique de négatif. Donc ça c'était un travail que tout le monde avait vraiment en tête à tous les maillons de fabrication, que ce soit au costume, au cadre, à la lumière, enfin, à la manière de poser le corps dans l'espace aussi. Donc ça, c'était vraiment une réflexion qu'on avait à chaque instant. Et ensuite, qu'on a prolongé au montage et en s'étalant pas. Je pense que on tombe dans le voyeurisme et on tombe dans le misérabilisme quand on caricature et on caricature quand on grossit le trait. Donc, s'attarder trop longuement sur un plan ou positionner un corps de manière trop évidente, c'est vraiment dire « Regardez, je vais vous montrer un truc. » Et là, on est au-dessus et on devient jugeant. Donc c'était un travail qui était minutieux et qui était un enjeu colossal pour le film.
T'as pété les plans, toi, en fait.
C'est mon corps, je fais ce que je veux.
L'hypersexualisation, moi, c'était important pour moi de montrer qu'hypersexualisation n'est pas égale à sexualité, que ça n'a rien à voir. Enfin, c'est deux choses complètement différentes. Et que Liane aussi s'est enfermée derrière son image. Elle ne se vit qu'à travers les réseaux sociaux et qu'à travers le regard des hommes. Et qu'à force d'être déconnectée de son corps, elle est loin de ses sensations, elle est loin de ses émotions au début du film. Et qu'au fur et à mesure, elle en prend conscience. Et ça c'est sa trajectoire qui lui permet d'être lucide à la fin du film et de partir armée de cette lucidité. Mais c'était effectivement le fait que Luan sa vierge, c'était un parti pris radical, mais que je trouvais très intéressant aussi par rapport à sa quête de pureté, par rapport à sa quête de... par rapport à sa quête d'absolu.
Je veux faire ton garde du corps.
J'ai pas besoin d'homme pour me protéger.
Je fais quoi si t'es pas prise?
Si je l'ai pas, je me tue.
C'était Agathe Riedinguet, la réalisatrice de Diamant Brut, en salle depuis le 20 novembre.
Je vous trouve si nerveux, quelque chose ne va pas ?
Terminé pour aujourd'hui.
Pas si vite.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé.
Ça ne me dérange pas le moins du monde.
Je ne comprends pas ce que vous essayez de me dire.
Il lui arrive quoi, elle ?
Au revoir.
Pardon ?
J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir.
De vous revoir.
De vous revoir.
Oui, ça ne fait aucun doute.
Ça ne servirait à rien de le nier. Le nier.
Merci.
On se retrouve la semaine prochaine encore avec des interviews. Ce sera celle de Miguel Gomez pour Grand Tour en compétition à Cannes et puis le réalisateur de La Reine du Drame. Et vous, messieurs ?
Bah moi, ce sera donc un film français en fanfare.
Et moi, je vous amène en Italie avec La Bella Estate.
À la semaine prochaine. Ni wa ni saita hana mo mitsu ni basu no hashiru tori ni deru. Cinerama.